Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Ducharme au micro, je vous parle en ce 2 avril, maintenant environ quoi, 2 semaines? Plus ou moins que ça même, là, 15 jours, 2 semaines, c'est pas mal ça. 2 semaines du début des séries éliminatoires, ça commence à sentir le printemps et les séries éliminatoires. On va parler de tout ça aujourd'hui avec mes deux collègues, Jean-François Chaumont, salut JF.
Salut Nick.
Et Guillaume Lepage, salut les gars.
Bonjour messieurs.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Ça va bien?
Ça va très bien.
Ouais. Vous avez l'air reposé.
Petit match. Petit match.
Ouais, petit match. Ouais. Des bonnes émotions. Écoute, ce matin, mon gars s'est levé et m'a dit « Est-ce que le Canadien a gagné? » J'ai dit « Oui, il y a 5 ans. » Il me dit « Est-ce qu'ils ont gagné la Coupe cette année? » Je dis « Du calme, mon grand, tu vas te recoucher, s'il te plaît. » Une chose à la fois, donc on va bien sûr parler de ça aujourd'hui, ce qui s'est passé avec le Canadien. On va parler de la course aux séries, tout ce qui se passe présentement. Parler de ce qui s'est passé aussi la semaine dernière. C'était fait quoi? Juste après un peu notre balado, là, mais congédiement de John Tortorella chez les Flyers de Philadelphie, l'espoir de tout ça. Quelques nouvelles de quelques joueurs aussi à travers la Ligue, quelques espoirs. Donc, c'est ce qui est au menu aujourd'hui au balado de LNH.com. Avant de commencer, chers auditeurs, je vous invite, si vous nous écoutez sur le site web de LNH.com, ben sachez que si vous êtes en déplacement, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute qui peuvent écouter, qui peuvent exister. Là, à peu près, là, faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Suivez-nous aussi, comme ça vous êtes certain de ne jamais rater le moindre balado. Avant de se lancer dans les Canadiens, écoutez, nouvelle de très matinale, c'est tout juste avant qu'on commence à enregistrer ce matin. Rogers et la Ligue nationale de hockey qui ont signé un nouveau partenariat télévisuel pour les 12 prochaines années. Donc, l'entente entre Rogers et la LNH qui est poursuivie. On sait que la première entente avait été signée en 2013, qui était elle aussi une entente de 12 ans, qui à l'époque valait 4,5 milliards canadiens. La nouvelle entente, 11 milliards de dollars. Donc, ça en dit long hein, sur l'importance des droits télévisuels dans tout le sport quand on voit les augmentations qui sont signées ici et là. Et c'est ce qui vient d'être fait avec Rogers, qui avait une fenêtre de négociation exclusive entre le 1er janvier et le 1er mars. Puis bon, cette fenêtre-là a été tirée parce que les discussions allaient plutôt bien, visiblement. Et finalement, on en est venu à une entente écoutez, ça a été annoncé ce matin. Dans les derniers jours, ça a été entériné par tout le monde dans toutes les instances. Donc, j'ai hâte de voir, les gars, comment tout ça va découler. Au niveau francophone, ce qu'on nous dit présentement, c'est qu'il n'y a rien de réglé. La Ligue nationale continue ses discussions. On sait que le package, hein, le forfait, appelez ça comme vous voulez, appartient à TVA Sport. Depuis, ça avait été signé en même temps que Sportsnet en 2013. Donc, on va voir comment tout ça va évoluer dans les prochaines années. La Ligue nationale aussi qui peut continuer de discuter pour certains matchs, certains forfaits avec d'autres groupes. On le sait, Amazon aussi qui s'est ajouté l'année dernière. Est-ce que c'est Amazon qui va rester? On verra bien. Donc, tout ça, j'ai hâte de voir comment tout ça va découler, autant en anglais qu'en français, dans les prochaines semaines. D'après moi, ça va être annoncé. Je veux dire, faut que les négociations soient en cours en ce moment. Donc, c'est pas mal ça pour cette nouvelle-là. Si vous voulez aller voir le site de LNH.com, le collègue Nick Kotsenika qui a écrit quelque chose là-dessus, qui va vous expliquer un peu comment tout ça va fonctionner. Les gars, hier, le match était à RDS. Il n'était pas à TVA Sport, à RDS. Et disons-le, les gens qui ont assisté ont eu droit à écouter tout un spectacle. T'sais, c'était une victoire de 3-2 en prolongation des Canadiens, alors que c'était un retour du balancier, cette fin de match-là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais les Canadiens avaient mieux joué que ce que le pointage indiquait. Mais on se doutait que ça n'allait pas être finalement un balayage contre les Panthers, champions de la Coupe Stanley. C'était trop beau pour être vrai. Finalement, Nick Suzuki qui en a décidé autrement.
Mais moi, il y a mon collègue, je ne le nommerai pas, là, mais Guillaume Lepage, on va le nommer, qui, avec environ une dizaine de minutes à jouer en troisième période, a peut-être brassé les dieux du hockey en disant « Il n'y a pas d'histoire. Qu'est-ce qu'on va écrire? Il n'y a pas d'histoire. » Finalement, bien, Lynn Hudson, Nick Suzuki ont écrit cette histoire. Canadien qui réussit à marquer le but égalisateur 2-2, mais je suis sans dire que c'est un grand match, les Panthers ont quand même eu des chances de marquer, auraient pu partir avec une avance plus confortable. Sam Bennett, entre autres, qui a été frustré par Samuel Montembeau. Mais même, c'est Guillaume, quand le Canadien a fait 2-2, c'est Guillaume qui a le bonheur d'écrire le flash, pour reprendre le mot... Le mot commun.
Résumé, d'ailleurs, le résumé de match.
D'ailleurs, Nick, est-ce qu'on peut entamer des négociations ici sur la place publique? Là, parce que je trouve que je paie souvent le prix, contrairement à GF.
Écoute,
ouais, mais si tu veux jouer l'arbitre ici, on pourrait peut-être négocier pour les 8 matchs qui restent.
Hier, quand Suzuki a marqué, c'était un moment d'euphorie dans le Centre Bell. Puis Guillaume, lui, m'a regardé puis m'a dit « Je pense que je vais lancer mon ordi sur la glace. » Là, j'ai dit « Guillaume... »
Nick l'a vu aussi, là. Oh, Nick, j'ai envoyé la photo au gars. Oh, mon texte était dans la boîte d'envoi.
Oui.
Il me restait juste à faire envoyer. Et c'est un texte qui racontait que les Panthers allaient bien finir par en gagner une contre les Canadiens.
Mais ben non.
Blablabla.
Mais moi, un petit peu plus sage, j'ai dit à Guillaume « Écoute, même si la Ligue vient de signer un contrat de 11 milliards, fais pas ça, Guillaume. Ils voudront pas te payer un nouvel ordinateur. Tu pourrais blesser un partisan. Sois plus sage. Avale la pilule. Efface. Recommence. Ça fait partie de l'apprentissage. Puis ce qu'il y a de fun aussi, c'est
de l'apprentissage.
De l'apprentissage.
J'ai l'air d'un gars qui a commencé à faire ça.
Mais c'est pour t'agacer. Tu sais, Suzuki t'a donné beaucoup de temps aussi. Il a marqué quoi là?
Oui, c'est ça.
9e seconde en prolongation.
Parce qu'habituellement, on nous permet de réécrire un peu le texte parce qu'on laisse durer les choses pendant 3-4 minutes en prolongation. Mais là, à 29 secondes,
29
la prolongation,
exactement.
Ouais. C'est revenu assez vite. C'est vraiment réécrire un texte en 5 minutes et demie à peu près.
C'est juste le deuxième but le plus rapide marqué en fin de troisième période et en prolongation de la part du même joueur de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Bon, il y a toujours un statisticien qui va venir étirer la corde au maximum, l'élastique au maximum quand il vient le temps de trouver des statistiques du genre. Mais ça en dit une chose, t'as pas eu beaucoup de temps pour travailler, Guillaume.
Non. Pas vraiment.
Non, exactement. Si on vous avait dit au début de la saison que le Canadien allait balayer, devrais-je dire, les Panthers 4 fois, dont 2 fois dans des moments très importants en fin de saison comme ça, où, souvenez-vous, là, ça allait pas très bien avant le match de dimanche. Là. Est-ce qu'il y a de quoi qui s'est passé dans le match de dimanche qui s'est poursuivi hier puis qui explique cette ténacité, on en a parlé, mais il y a de quoi qui se passe chez les Canadiens que je ne vois pas nécessairement chez les autres équipes dans la course aux séries, mis à part les Blue Jackets de Columbus pour des raisons évidentes chez les Blue Jackets.
Ben écoute, un balayage contre les Panthers, je pense que personne n'aurait prédit pareil scénario. 4 victoires qu'une défaite, mais c'est la façon. Les 2 derniers matchs, le Canadien les gagne au moment où c'est en plein cœur d'une course en série, donc la pression est forte. Puis il y avait un enjeu aussi pour les Panthers. Les Panthers se battent pour le premier rang à l'Atlantique, donc c'est des points qu'ils ne veulent pas perdre au classement. Mais c'est surtout la façon que le capitaine joue. Depuis le retour de la pause, Nick Suzuki, c'est 27 points en 18 matchs, 10 buts. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur non plus là, des qualités ou de vanter Lane Hudson. Lane Hudson a changé l'image du CH cette saison. Sans Hudson, je ne crois pas qu'il y ait une course pour une participation en série. C'est 62 points maintenant, 5 buts, 57 passes. Hier, le jeu, là, quand il reste 30 secondes, il y a une mise en jeu en territoire du Canadien. C'est les Panthers qui gagnent la mise en jeu. Montembeau est de retour devant le filet. Il y a Barkov qui, je ne sais pas pourquoi, décide d'y aller d'un tir au but plutôt que d'essayer de gruger quelques secondes et de garder possession de la rondelle.
Peut-être parce qu'il n'était pas à 100%. Barkov, hier, on le sait.
Peut-être, mais c'est une mauvaise décision. Mm-hmm. Vraiment mauvaise décision de sa part. Mais Slavkovski qui finit par repérer Hudson, puis de la façon qu'Hudson gère la rondelle, ça peut paraître un tir anodin, mais c'est quoi l'expression d'un entraîneur? C'est si tu places des rondelles devant le filet, tu vas créer du chaos, mais c'est ce qu'Hudson a réussi à faire. Suzuki qui récupère la rondelle, qui marque. C'est beau de le voir aller, honnêtement, Lane Hudson. Guillaume a écrit hier soir à son sujet. C'est un gars qui reste de glace quand on lui parle de statistiques personnelles. Mais quand tu es sur le point d'écrire ton nom devant celui de Chris Chelios, c'est quand même digne de mention. 62 points, c'est plus aussi que Niklas Lidström. Il vient maintenant, je crois, au 7e rang dans l'histoire de la Ligue nationale pour les défenseurs recrues. Je veux juste vérifier rapidement.
Ça a peut-être changé.
Septième rang maintenant. Celui qui a le record, c'est Larry Murphy à 76. Brian Leetch, deuxième à 71. Ensuite, Gary Suter, 68. Phil Ossley, 66. Raymond Bourque, 65. Chris Chelios, 64.
Ce sont tous des noms, des joueurs qui ont joué il y a très longtemps dans la... Oui. Peut-être oui. La...
Où ils se marquaient un à deux gardiens, buts plus par match.
L'époque des gardiens debout, là, moins, c'est ça. Était...
Non, ça vient donner du poids encore plus à la saison de Lane Hudson.
Non, je veux dire, c'est phénoménal. Et là, c'est pas terminé. Si on garde un peu le même type de production d'ici la fin de l'année, Hudson réellement peut entrer dans le top 3 de cette liste-là. C'est difficile de ne pas s'emporter quand on regarde Lane Hudson. Et c'est de plus en plus difficile de ne pas penser à lui pour le Calder. Là, parce que, personnellement, moi, c'est réglé. Il y a encore des gens qui en vont. Mais je veux dire, Lane Hudson, Macklin Celebrini a une bonne année. Mais est-ce que Macklin Celebrini est dans le quoi, top 5 des marqueurs de la Ligue au niveau des défenseurs? Il faudrait que je regarde, là, mais j'ai pas vu Hudson. Il faudrait que je compare. Mais est-ce que Macklin Celebrini est dans les meneurs de la Ligue au point? Non. Est-ce que Matvey Michkov est là dans les meneurs de la Ligue? Non. Bon, Tortorella n'est plus là. Ça se pourrait que finalement, ça aille rapidement pour lui. Mais ce que Hudson fait, il n'y a rien de comparable présentement dans la Ligue nationale de hockey. Il n'y a aucun joueur qui a un impact de la force d'Hudson chez les recrues. Peut-être Dustin Wolf, mais là, visiblement, avec ce qui se passe chez les Flames, ça commence à un petit peu à affaiblir sa candidature. Pas de sa faute, là, soyons francs. Là. Mais Hudson, si on ne voyait pas les Flames en séries éliminatoires, puis on s'est passé proche à cause des performances de Dustin Wolf, ben je veux dire, ça s'applique aussi bien aux Canadiens là, avec ce que Hudson fait.
Depuis le retour de la pause, Hudson, c'est 18 points en 16 matchs. 16 points en 18 matchs, quelque chose comme ça.
C'est 21 points en 18 matchs depuis le retour de la pause pour Lane Hudson. Même, je pense, depuis le début de l'année...
Les stats n'avaient pas été,
mises
à jour hier soir.
Deux buts, 19 passes.
Depuis le début de l'année, là, c'est 36 points en 37 matchs Lane Hudson depuis le 1er janvier. Il n'y a que Cale Makar qui est en avant de lui. Là, on n'est plus en train de parler de Calder là, pour Lane Hudson. On commence lentement, mais sûrement, à s'approcher du Norris. Peut-être pas dans le top 5, mais dans le top 10, top 15.
Depuis le retour de la pause, les gars, là, c'est plus 14 aussi pour Lane Hudson. Puis hier, pendant le match, là, moi et Guillaume, on se regardait. Puis quand c'était tranquille, on se disait ben, « Passe la rondelle à Lane Hudson. » Puis c'est un peu ça aussi qui se passait sur la glace. Combien de fois qu'il crée des jeux à partir de pratiquement rien? On a l'exemple sur le but égalisateur de Nick Suzuki. Le match en Floride aussi, la passe que Lane Hudson réussit encore une fois pour Nick Suzuki, c'est une passe tout simplement de magie. C'est le fun de le voir aller. Hier, c'est 26 minutes de temps de jeu. Puis Martin Saint-Louis, hier matin, Guillaume, je ne me trompe pas, le Martin Saint-Louis disait que lui, encore une fois, ce qui l'impressionne le plus, c'est son jeu défensif. À quel point il a réussi à s'améliorer cette saison dans son territoire. Là, présentement, il joue avec Kaden Goulet. Puis souvent, tu sais, Hudson, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus fort, mais pour se défaire d'un rival, c'est un petit coup d'hockey juste pour lui faire perdre l'équilibre. C'est de l'intelligence à l'état pur, ce qui fait en sorte que c'est un joueur spécial. Puis moi, j'en démarre pas. Pour gagner le Calder aussi, quand va venir le temps de voter, ceux qui ont l'occasion de voter, il faut que tu regardes l'impact que le joueur a eu au sein de son équipe. Puis si Lane Hudson réussit à guider le CH jusqu'à une participation en série, je pense que là, on est rendu à 74 matchs de jouer. Là, l'échantillon est assez gros pour dire qu'il est le principal candidat.
Et le retour de Goulet, en plus, va être comme du Red Bull pour Lane Hudson. Ça va lui donner des ailes parce que là, il y a un joueur qui est tellement fiable défensivement autour de lui. Comme tu dis, prends la rondelle, Lane, va t'amuser en avant.
Ouais, puis Goulet disait exactement ça après le match. Il dit quand tu joues avec un joueur qui fait le genre de choses que Lane est capable de faire sur la glace, tu te concentres sur l'aspect défensif du jeu. Puis tu le laisses faire le reste parce que visiblement, il n'y a pas besoin de beaucoup de soutien de son partenaire défensif pour générer quoi que ce soit offensivement. Mais ce duo-là, j'ai l'impression que le Goulet en était à son troisième match là, depuis le retour de depuis son retour de blessure. Donc, ça va encore s'améliorer, mais je pense que cette paire-là t'amène une toute autre dimension dans. dans les six défenseurs qu'on avait, là, il y a quelques semaines, on cherchait un peu de profondeur. Là, tu as comme deux bonnes paires, Matheson, Carrier, après ça, tu as Goulet, Hudson. C'est deux paires assez intéressantes. Puis non, les deux se complémentent très, très bien sur la patinoire. Puis juste pour ajouter à la discussion Calder, moi, au-delà des points, je pense que tu regardes l'impact du joueur à sa première saison puis sa manière de se comporter dans toutes les situations. Hier, quand Slafkovský a fait la passe de derrière le filet, il restait 17 secondes à la rencontre. Puis c'est un match que le Canadien ne peut pas échapper. C'est la pression est à son maximum. Hudson est à la ligne rouge. Il y en aurait beaucoup qui auraient rushé la rondelle en fond de territoire en espérant que quelqu'un se rende en premier puis réussisse à décocher un tir. Rentrer la rondelle dans le territoire, Seth Jones s'avance sur lui, Seth Jones qui n'est pas un petit bonhomme, là, fonce sur lui, garde son calme, réussit à trouver une ligne de tir. Honnêtement, c'est très, très impressionnant ce qu'il est en mesure de faire. Puis l'impact qu'il a, je pense pas qu'il y a aucune autre recrue qui est capable de lui arriver à la cheville là, dans cette course pour le Calder.
Non. On parle de la progression de Lane Hudson qui s'est faite en une année, mais celle de Nick Suzuki depuis ses débuts dans la Ligue nationale, c'est vraiment une progression constante de petits joueurs. C'est pas le plus gros. Au début, on se demandait un peu quel type d'impact il allait avoir quand on était cherché dans la transaction Max Pacioretty. Finalement, ce joueur-là n'arrête pas de progresser. La question, il en est où, Nick Suzuki, dans l'échiquier des joueurs de centre? Est-ce qu'il est en train de s'insérer dans le top 10 des joueurs de centre de la Ligue? Ou est-ce que faut quand même, tu sais, c'est une belle lancée. Suzuki, là, depuis le retour de la pause de la confrontation des quatre nations, c'est 27 points en 18 matchs. Ça se place pas trop loin d'un Nikita Kucherov qui est dans la course pour le titre de joueur le plus utile de la saison. On débat, là, mais Nick Suzuki, top 10? Pas top 10?
Il est pas loin. Il n'est pas dans la couche des bébites extraordinaires, ça, ouais. Là, à la McKinnon, la McDavid. Mais il peut être top 15 sans trop avoir peur là, au niveau des joueurs de centre. C'est au moins une bonne nouvelle. C'est depuis combien d'années, du côté de Montréal, on se dit qui est le premier centre de cette équipe-là? Le CH a maintenant un premier centre en Nick Suzuki. C'est 79 points cette année. À moins d'une malchance, Suzuki va atteindre le plateau des 80 points. C'est à Montréal, 80 points. Le dernier joueur qui a obtenu 80 points, c'est Alex Kovalev en 2007-2008. Ça fait un bail quand même. Kovalev avait eu 84 points. C'est un peu aussi, comme Guillaume disait tantôt pour Lane Hudson, c'est au-delà des chiffres. Nick Suzuki, c'est le joueur qui est intelligent, qui peut contrer les bons trios aussi des équipes adverses. Fait en sorte, il est bien entouré avec Caulfield et Slafkovský cette saison, mais dans un grand match aussi, Suzuki a ce don de se lever au bon moment. Je pense pas qu'on parle d'un McKinnon. Pour revenir à ta question, on parle pas d'un McKinnon, d'un McDavid. Peut-être Jack Eichel aussi qui est dans cette équation-là.
Est-ce qu'on commence à parler d'un Jack Hughes?
On parle de joueurs complètement
différents. C'est moins spectaculaire.
Ouais, mais Jack Hughes, quand ça brasse un petit peu ou quand la température grimpe là, aux quatre nations, Jack Hughes, je trouve qu'il avait pris le costume d'Halloween du fantôme. Suzuki, ça l'a peut-être piqué aussi dans son orgueil. Mm-hmm. Il n'a pas reçu d'invitation. C'est Anthony Cirelli qui a peut-être joué le rôle qu'on aurait pu confier à Nick Suzuki. Est-ce que ça va être le même discours l'an prochain pour les Jeux olympiques? Disons qu'il mousse sa candidature pour qu'on le regarde pour la formation canadienne.
Parce que là, oui, on parle de 80 points, possiblement au moins 85 d'ici la fin de la saison. Là. Il reste 8 matchs, puis si Suzuki poursuit au même rythme, on va surpasser les 85 points. Mais Nick Suzuki, dans une équipe avec beaucoup plus de profondeur, est-ce qu'on parle d'un joueur de 90, 95 points?
Avec un bon deuxième centre, c'est une bonne question, ça, Guillaume.
On l'a dit combien de fois cette année, il y a un seul trio du côté du Canadien, puis l'adversaire n'a qu'à le contrer, puis ensuite de ça, t'sais, concentrer ses énergies sur ce trio-là, puis après ça, ben, on se croise les doigts avec le reste, puis ça devrait bien aller. sais, l'an prochain, si on ajoute un deuxième centre de qualité, si Demidov est dans la formation, puis que Suzuki continue de jouer de la manière qu'il le fait en ce moment, on peut, tu sais, moi, je pense qu'on peut parler de lui comme d'un joueur d'au moins 90 points en montant, puis il ne faut pas oublier que, tu sais, tu parles de progression, il y a 25 ans. S'il arrive à son prime à 27 ans, 27, 28 ans, dans une équipe qui aspire aux grands honneurs, ben, je pense que Nick Suzuki vient de prouver cette saison là, qu'on peut arrêter quand même d'avoir ce débat-là sur le premier centre. Là. Il est capable de faire le travail. Moi, ce qui m'a surpris, tu sais, je pense qu'à son année de repêchage, on l'avait tous vu, on connaissait son intelligence sur la glace, on savait que c'était un joueur de centre très, très fiable défensivement. Ce qui me surprend en ce moment, c'est l'aspect gamer, l'aspect, tu sais, il se lève, c'est pas à la hauteur d'un Nathan McKinnon à Colorado là, qui prend les choses en main quand ça lui tente, là, mais Nick Suzuki, ce qu'il est en train de démontrer en ce moment, là, c'est ce qui m'impressionne le plus, je pense, dans tout ça. Là. Même on parle des points et tout ça, mais dans les grands moments, il est capable de se lever puis de guider cette équipe-là vers le haut parce qu'on a parlé de Lane Hudson. Si Lane Hudson n'est pas là, le Canadien n'est pas dans la course. Si Suzuki n'est pas là, non, c'est depuis le retour de la pause, c'est, on n'est même pas proche de d'aspirer à une place en série. Fait que vraiment, c'est impressionnant ce qu'on est en train de voir.
Il reste encore 5 ans au contrat de Nick Suzuki à un salaire de 7,875 000 $. Ce contrat-là qui avait été offert par Marc Bergevin, on commence lentement, mais sûrement à tomber dans l'aubaine. Je veux dire, dans 2-3 ans, si Nick Suzuki continue comme ça, ça va être une aubaine, ce contrat-là. Tu regardes la structure financière des Canadiens, tu regardes la progression d'un Lane Hudson, tu regardes Nick Suzuki, tu regardes les pièces qu'Aiden Goulet, s'il peut rester en santé. C'est Pierre Lebrun, l'autre jour, qui discutait, je ne sais plus sur, je pense que c'est du côté de BPM Sport, là, je crois, là, je les salue. Puis il dit, j'ai parlé à un directeur général off the record, puis il m'a dit, je regarde les Canadiens, puis je dis comment ils sont bâtis de la bonne façon, ils vont faire peur dans pas très longtemps. Puis si en plus le tricolore devait aller chercher de l'expérience en séries éliminatoires cette année, tu sais, j'ai le goût de dire, la page est tournée sur la reconstruction. On passe à une étape supplémentaire avec ce qui s'en vient. Je sais que je ne veux pas aller trop vite, mais en plus, tu ajoutes un Demidov l'année prochaine qui, écoute, il est très bon quand il est habillé, quand il a du temps de jeu dans la KHL, il a l'air très bon. Hein? Des fois, on le laisse de côté, mais ça, c'est une autre affaire. Mais tu ajoutes un Demidov, puis, tu sais, est-ce que les Canadiens, selon vous, vont arriver l'année prochaine, l'été prochain, joueur autonome, peu importe? Puis là, ça commence à être une option des plus intéressantes pour des joueurs qui n'auraient jamais pensé à venir jouer à Montréal, à venir jouer au Canada. Mais là, tu vois cette équipe-là monter, puis tu te dis, « Hey, sais-tu quoi? J'ai le goût d'embarquer dans ce bateau-là. »
Bien, c'est une bonne question. Faut rester prudent avant de dire que la reconstruction est terminée ou est derrière nous. Là.
Ça a dit terminé.
Mais... L'amélioration d'une équipe, ouais. Ça reste que c'est jamais linéaire. Là. Tu augmentes de 10% chaque année. Tu peux encore frapper un mur, mais oui, sur papier, il y a eu une saine gestion financière. Ça, faut le dire, la part de Kent Hughes, la part de Jeff Gorton. Tu parlais du contrat de Nick Suzuki. Caulfield qui est à 7,85. Suzuki est à 7,875. Lainé, le joueur le mieux payé, mais ce n'est pas un contrat qui a été donné par le Canadien à 8,7. Stafkovski va tomber du côté de 7,6. Attention, par contre, quand va venir le temps de négocier la prolongation de contrat de Lane Hudson, on va défoncer le plafond de 7,8 là, du capitaine Suzuki.
C'est correct. À un moment donné, ça doit se passer.
Hudson va peut-être cogner à la porte de 9-10 millions par saison pour sa prolongation de contrat. On verra. Ça, c'est un autre dossier. Mais il y a une chose aussi...
Tu n'as pas parlé de Caden Goulet, là, qui
est contrat Caden Goulet, 5 millions et des poussières. Donc... Oui, financièrement, le CH est entre bonnes mains. Mais l'autre aspect, tu dis que cette saison, l'équipe gagne. Je crois que dans les 32 équipes de la Ligue, ça se jase aussi à quel point l'ambiance montréalaise est particulière. Est-ce que les joueurs vont finalement arrêter de dire que c'est un marché où il y a trop de stress, trop de médias, environnement où tu es trop sous la loupe? si tu gagnes du côté du Centre Bell, c'est difficile de trouver un meilleur amphithéâtre que celui du Centre Bell. Les quatre nations ont servi de vitrine pour le prouver. Mais en même temps, il ne faut pas non plus tomber dans le panneau d'essayer d'y aller de gros contrats. Puis c'est là que tu peux détruire aussi peut-être ton équilibre salarial quand le 1er juillet va arriver. Je crois beaucoup plus à une transaction hockey. Kent Hughes, Jeff Gorton ont les munitions avec plusieurs espoirs, encore beaucoup de choix et beaucoup de défenseurs. Donc, si jamais le CH va chercher un deuxième joueur de centre, c'est assez évident qu'ils seront actifs au cours de l'été.
Juste pour faire du pouce sur le rayonnement, là, hier, en revenant à la maison, j'ai regardé un peu les réseaux sociaux et les clips des deux bus Suzuki avec l'ambiance, l'entrevue avec Marc Denis sur la glace, ça se promenait partout, mais là, c'est pas juste des collègues québécois, des collègues montréalais, c'est à travers la ligue. Il y avait des collègues qui disaient le hockey est différent quand Montréal est en série ou quand Montréal aspire à une place en série. Puis je pense que ça se voit beaucoup. Je voyais même des collègues finlandais qui repartageaient les clips de l'entrevue de Marc Denis juste parce que l'ambiance était complètement survoltée pendant cette entrevue-là. Fait que, oui, ça, le mot se passe à travers la ligue, mais honnêtement, tu sais, je pense que tu regardes le noyau de cette équipe-là, tu regardes l'ambiance qu'il y a autour de l'équipe, ça a l'air d'une équipe si serrée aussi. Là. Je pense que pour un joueur vraiment. Qui se dit cherche une bonne place ou m'épanouir ou connaître du succès sur la patinoire. Je pense que ça part aussi à l'intérieur du vestiaire. On parle de la construction de l'équipe, mais c'est des bons individus. Je pense que généralement, dans ce vestiaire-là, JF peut en témoigner, c'est des bons gars. Il n'y a personne qui se prend pour personne d'autre, qui se prend pour la grande vedette. Je pense qu'il y a quelque chose de spécial qui est en train de se bâtir ou de se concrétiser peut-être à Montréal.
Série, pas série, t'sais, on parle depuis tantôt de la progression de Suzuki, de la progression de Dan Hudson. Il y en a un autre qui a une grosse progression comme entraîneur-chef, c'est Martin Saint-Louis. Série, pas série, quel va avoir été l'impact de cette saison-là pour Martin Saint-Louis, l'entraîneur, mais aussi pour la façon que le reste de la Ligue, les autres joueurs, voient Martin Saint-Louis comme entraîneur-chef. Il y a des entraîneurs, tu veux jouer pour eux autres. Je pense que Martin Saint-Louis en est un. Mais ça aussi, ça a un impact. Là. L'aura autour de Martin Saint-Louis présentement.
Ben, il fait partie de l'assemblage du casse-tête. Ça. Il n'y a pas de doute. Puis je crois que Martin Saint-Louis serait le premier à le dire. À l'image de l'équipe, il y a une amélioration aussi. Ça restait un métier qu'il devait découvrir au niveau de la Ligue nationale. Mais c'est un gars tellement intelligent, tellement passionné, il doit consacrer des heures absolument folles pour le travail qu'il accomplit. Oui, il faut saluer ce que Martin Saint-Louis fait pour le Canadien, puis c'est certain qu'il a une bonne réputation à travers la Ligue. Moi, je retiens aussi une de ses phrases là, dans les derniers jours. Tu peux faire un bien plus long bout de chemin avec de bonnes personnes, de bons individus qui ont peut-être des fois un petit peu moins de talent, mais le côté, comme Guillaume disait, rassembleur de cette équipe-là, où les liens sont assez serrés, vont t'aider énormément. C'est pour ça aussi que le moment que tu veux acheter des pièces au casse-tête, je suis convaincu que Kent Hughes va bien faire ses devoirs. Ouais. C'était pas juste d'aller chercher un bon joueur qui a de bons chiffres, de bonnes statistiques, mais c'est qui va bien s'intégrer à ce groupe-là. Puis on l'a vu aussi dans les dernières semaines, Brendan Gallagher. Gallagher a peut-être ralenti. Josh Anderson, qui est blessé de partout, mais ces gars-là ont une aura aussi, puis ils font en sorte que le reste de l'équipe désire pousser avec eux. Donc, c'est le fun, ce qu'on voit en ce moment du côté du CH. Puis c'est vrai que Saint-Louis a eu une influence. Cette année aussi, il s'est pris plusieurs responsabilités là, avec Alex Burrows, qui a demandé à être moins présent dans le quotidien, mais Saint-Louis s'ajoutait l'avantage numérique. L'avantage numérique roule quand même bien depuis le début de l'année. Oui, l'ajout de Patrick Laine peut donner à n'importe qui, un coup de main à n'importe qui concocterait un bon avantage numérique, mais Saint-Louis a fait du gros, gros, gros travail cette saison.
Oui, puis tu parlais d'ambiance. J'ai l'impression que l'ambiance est meilleure chez les Canadiens qu'elle est chez les Islanders de New York présentement. Patrick Roy, qui a éviscéré Anthony Duclair hier, donc qui a dit qu'il...
Est-ce que c'est ce qu'on appelle lancer quelqu'un sous les roues de l'autobus?
Oh, c'est plus un semi-remorque, je te dirais. tu sais, bien rempli, là, qui arrive de la carrière rempli de gravel ou peu importe, mais... C'est une des situations parce que les Islanders, on va parler de la course aux séries éliminatoires, les Islanders qui ont perdu leurs 4 derniers matchs, ce qui fait qu'ils se retrouvent de plus en plus loin. Bon, les Canadiens dans l'Est, les Canadiens 79 points à l'heure où on se parle en 74 matchs devant ces Blue Jackets de Columbus qui en ont deux de moins mais qui ont un match en main. Blue Jackets là, qui, tu l'as dit la semaine passée, JF, là, course de tortue, là, ça se poursuit. Là. Je veux dire, les Canadiens sont là, mais pas parce qu'on a gagné 7 matchs, 8 matchs consécutifs. Les Rangers aussi qui sont pas très loin, qui ont ajouté une victoire à leur dernier match. Donc 77 points, mais même nombre de matchs que le Tricolore. Ça va se décider vraiment jusqu'à la fin, mais sur papier, les Canadiens ont un bel avantage. On a le troisième horaire le plus facile d'ici à la fin de la saison. Vous allez me dire que le Canadien a perdu contre les Blackhawks quand il devait gagner. Le Canadien a perdu contre les Flyers quand cette équipe-là ne battait absolument personne. Je suis d'accord, mais quand même, sur les 8 derniers matchs, il y en a 5 à domicile pour le Tricolore. Troisième meilleure fiche, tandis que Détroit, qui sont encore dans la course, on a le pire calendrier. Les Rangers, on est le 6e pire calendrier. Les Blue Jackets, on a le 4e pire calendrier. Non, ouais, vas-y.
On regardait ça hier, les Blue Jackets, c'est atroce, là. Je sais pas.
Colorado, Toronto, Ottawa deux fois, t'as Washington deux fois.
Ouais,
ouf, ça va être difficile. Je sais que cette saison-là va avoir été magique chez les Blue Jackets. C'est une équipe qui n'a jamais lâché, mais ça sera pas facile. Il va falloir beaucoup, beaucoup de magie. Tandis que chez les Tricolores, on le sait, là, les matchs qui s'en viennent, les deux prochains, là, Boston, Philadelphie. C'est des équipes qui sont en dehors des séries. Ensuite
c'est Nashville,
Détroit. Nashville. Donc, tout le monde est hors des séries pour les 4 prochains matchs du Tricolore. Si tu vas chercher 4 matchs-là, ben c'est peut-être réglé. Là.
C'est ça. C'est le moment d'empocher les points.
Peser sur le gaz, en bon français.
Exact, parce que oui, calendrier facile, mais à la fin de la semaine prochaine, un dos à dos sénateur Maple Leaf. Après ça, on revient à la maison. Bon, les Blackhawks, OK, mais les Hurricanes avec le dernier match. Tu sais, c'est... Le calendrier est facile, plus facile, disons, cette semaine. Si le Canadien poursuit sur sa lancée, tu sais, personnellement, le match qui me faisait le plus peur dans cette semaine-là, c'était celui d'hier. Le défi a été relevé. Ensuite de ça, ben faut éviter les pièges là, parce qu'il va y avoir quand même c'est une victoire émotive hier. Là on retrouve la glace du Centre Bell jeudi contre les Bruins. Oui, des rivaux, mais des rivaux qui ne sont plus dans la course aux séries. Faudrait pas tomber dans le piège dans lequel on est tombé à Philadelphie, peut-être lever le pied puis penser que c'est dans la poche. Mais si la logique est respectée cette semaine, peut-être qu'on se parle mercredi prochain puis que le Canadien a un coussin un petit peu plus confortable que celui qu'il a en ce moment parce que la course de tortue, là, le Canadien a une des bonnes fiches à ses 10 derniers matchs dans cette course-là et a 4 victoires en temps réglementaire.
Ben ouais.
Fait que je pense que ça en dit long sur ce qui se passe dans l'Est.
puis le CH a quand même une vilaine séquence de 5 défaites d'affilée il n'y a pas si longtemps avant les 2 victoires contre les Panthers. Il y avait eu 2 points au classement là, pour des défaites en prolongation dans cette séquence-là. Puis malgré ça, tu ne glisses pas au classement. Ça te montre que c'est ça. C'est une course à la tortue dans l'Est. Mais la bonne nouvelle, c'est que maintenant, Montréal contrôle son destin.
Ouais.
Puis c'est ce qu'il voulait depuis longtemps. Contrôle son destin à un horaire sensiblement... relativement facile. Plusieurs matchs aussi à la maison. C'est 5 sur 8 à la maison. Puis à part le voyage à Nashville, on parle d'Ottawa et Toronto. Donc oui, des rivaux quand même importants, mais c'est pas un voyagement éreintant. Donc le calendrier du Canadien sur papier est favorable. Faut que tu ramasses les points.
Non, je dis à Nashville comme voyage, je vais peut-être être un peu plus calme que ça peut être certaines autres années.
Ben oui, mais ça, c'est quasiment le bonheur d'un coach ou d'un DG quand tu vois que c'est Nashville, mais que la veille, tu joues à Philadelphie. T'arrives à Nashville, il est 1h30, 2h du matin, on est en train de passer le balai sur Broadway, le Tootsie's ferme les portes, le Roberts ne sert plus le sandwich au ballonné. Honnêtement, c'est une catastrophe pour les joueurs, mais dans une course aux séries, c'est peut-être une bonne chose.
Jeudi, les Bruins, écoutez, 6 défaites consécutives, une seule victoire à leurs 10 dernières rencontres, ça va vraiment pas bien pour les Bruins. Charlie McAvoy, peut-être éventuellement un retour. Pour ceux qui l'ont dans leur pool, je suis heureux pour vous, mais ça semble pas se dessiner pour jeudi. Il y a seulement Morgan Geekie et David Pastrnak qui fonctionnent encore dans cette équipe-là. Mais c'est un match Canadien-Bruins. Avez-vous l'impression que peu importe ce qui arrive, peu importe ce qui se passe chez les Bruins, on est à égalité. C'est tout un recommencement. Égalité. Un peu comme dans les mauvaises séquences que les Canadiens ont eues pendant les reconstructions. Quand il arrive à Toronto, oups, va chercher une grosse victoire, des choses comme ça. Il y a tout le temps une ambiance de trouble, de jouer les troubles fêtes dans ces rivalités-là. Donc, on verra bien ce qui...
Je suis curieux parce que je regarde la formation. Là. Il n'y a pas beaucoup de joueurs là-dedans qui ont vraiment vécu quoi que ce soit en termes de rivalité avec les Canadiens. Tu sais, le noyau n'est plus là. T'sais, McAvoy n'est pas là, il y a pas Pastrnak. Tu regardes le reste de la formation. Si je suis un partisan des Canadiens et que je cherche quelqu'un à huer dans ce match-là, j'ai de la difficulté à arrêter mon choix. Là. On dirait que c'est...
Vinny Leteri.
Non, mais tu sais, je
non, il
n'y
a personne, il n'y a pas...
Oui, c'est un duel. Bon, c'est deux rivaux historiques, mais tu regardes cette formation-là puis il n'y a pas d'antécédent du tout là, avec les formations qui sont sur la glace en ce moment. Fait que peut-être que ça va jouer
derrière,
un peu,
mais... Même derrière le banc, Joe Sacco, je veux dire, il n'a pas vécu. Jim Montgomery, c'est un gars de Montréal. Tu veux gagner contre l'équipe de ton patelin. Après ça, remonte les Claude Julien, les nommés-les, ceux qui ont été là, ceux qui ont vécu cette rivalité-là, Bruce Cassidy. Mais effectivement, comme tu dis, il ne reste plus de... T'sais, on est loin de l'époque de Cal McLaren. On est loin de l'époque de Zdeno Chara. Des coups, des victoires. Non,
PJ
non, non,
Brad Marchand. Compagnie.
Ouais, non, c'est vraiment Brad Marchand. Ouais, Brad Marchand, mets-le au haut de la liste. Mais oui, c'est le début de la reconstruction là, chez les Bruins. J'ai l'impression que.
Mais je regarde sur les ailes. Là. Morgan Geekie qui patine au sein d'un premier trio. Après ça, tu as Cole Koepke, Jacob Loco au sein du deuxième trio. Marat Kuznutdina, Vinny Leteri.
J'avais hâte de t'entendre dire.
C'est mince,
Patrick Brown.
Ouais, c'est ça. C'est une équipe qui a lancé la serviette cette année. On va regarder pour la saison prochaine du côté des Bruins, mais il n'y a pas une tonne d'espoir non plus côté de Providence ou même ailleurs dans les rangs juniors. Donc, ça pourrait être le début d'un autre cycle du côté de Boston.
Non, c'est... Je vois pas comment on peut raconter. On savait que ça allait piquer du nez. Je veux dire, on fait des années qu'on disait que les Bruins, à un moment donné, ça allait piquer du nez. Ils nous ont surpris pendant quelques années. Mais là, je veux dire, la descente aux enfers là, est quand même assez...
C'est le classique aussi. On a blâmé Jim Montgomery, mais je regarde ce que Jim Montgomery fait avec les Blues. C'est pas si mal aussi. Puis je serais curieux, là, tu fais un sondage jeudi, tu donnes un petit billet aux 21 000 spectateurs qui vont rentrer dans les portes du Centre Bell. Tu leur demandes d'écrire qui est le coach des Bruins de Boston. Il y en a peut-être minimum 5000 là, qui ne sont pas capables de dire que c'est Joe Sacco en ce moment. Donc, c'est ça. C'était la décision de Cam Neely. On en a parlé souvent cette année. Là, mais Neely et Sweeney qui ont choisi de congédier le bon Jim. Puis peut-être qu'ils le regrettent aujourd'hui.
Surtout quand on regarde ce que les Blues sont en train de faire. Course aux séries dans l'Ouest. 10 victoires consécutives pour les Blues. Tout le monde fonctionne à Saint-Louis, les gardiens, les attaquants, tout va bien. On vient de dépasser le Wild du Minnesota. Et là, c'est les Jets de Winnipeg qui doivent être particulièrement heureux de voir que les Blues continuent à monter au classement pendant que le Wild là, s'accroche aux séries éliminatoires. Je pense qu'ils vont quand même réussir à les faire parce qu'on avait une belle avance sur les Flames et les Canucks déjà. Mais les Blues là, qui sont en train de se placer, de se mettre en position pour plutôt affronter les Golden Knights que... Les Jets, donc, soyons francs, c'est presque réglé là, dans l'Ouest. T'en as parlé un peu d'ailleurs, JF, t'as parlé avec Zachary Bauduc. On a parlé des Blues la semaine dernière, mais on n'avait pas parlé de Bauduc. Je suis content que tu ailles te parler. Comment il vit ça, lui, tout ça, là, présentement, alors qu'il est de plus en plus Bauduc en train de devenir un atout là, chez les Blues, un jeune atout d'une équipe C'est une équipe qui en a plusieurs bons jeunes joueurs. C'est une équipe qu'on n'a pas vu, qui a raté les séries dans les deux dernières années, les Blues, mais qui n'a pas nécessairement non plus fait un retool. On dirait qu'il a juste eu les bonnes acquisitions au bon moment. Puis bon, Bolduc dans les jeunes qui ont grandi dans l'organisation en est un.
Bien, c'est un scénario qui ressemblait un petit peu à celui du Canadien à date limite des transactions. On pouvait se poser la question, qu'est-ce que Doug Armstrong va choisir comme action? Armstrong a décidé de rester fidèle à son équipe. Il a opté pour le statu quo, comme Kent Hughes. Puis il a misé sur son équipe à l'intérieur du vestiaire. Les Blues, on connaît l'histoire, là, c'est maintenant 10 victoires d'affilée. Zachary Bolduc disait, c'est simple, c'est du gros bonheur. Tu arrives à l'aréna, tout le monde sourit, l'équipe gagne, tout le monde joue bien. C'est 10 victoires d'affilée aussi sans Colton Parayko, qui est probablement le premier défenseur de cette équipe-là. Tu as Robert Thomas qui joue du bon hockey.
Ils ont ajouté Cam Fowler. Ça a été la grosse acquisition.
Ouais, il y a eu Cam Fowler, mais ça a quand même été... Cam Fowler, ça a été au mois de janvier ou peut-être même fin décembre où ils ont obtenu ses services. Donc, Dylan Holloway joue bien. Puis Zachary Bolduc, c'en est un qui, depuis le retour, la pause à confrontation des quatre nations, c'est 10 buts pour Zachary Bolduc. Donc, il a trouvé son envol, pris son envol, trouvé son rôle. Il y a aussi des présences régulières au sein de la première unité en avantage numérique. Donc, c'est un jeune attaquant de 21 ans qui, tranquillement, pas vite, fait sa place. Puis il disait de Jim Montgomery, c'est un entraîneur qui est exigeant. Si tu t'endors, bien, il n'y aura pas beaucoup de patience avec toi. Mais quand tu lui en donnes, bien, Montgomery va t'en donner. Puis c'est ce que Zachary Bolduc fait là, depuis plusieurs matchs. C'est un joueur constant maintenant pour les Blues de Saint-Louis.
Puis Zachary Bolduc a appris avec Patrick Roy aussi.
Oui, il a déjà eu un entraîneur assez exigeant.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que ce qu'on lit sur Zachary Bolduc, ce qu'on entend depuis quelques semaines, quelques mois, c'est on vante beaucoup son jeu physique, son implication, tout ça. Au niveau junior, là, Zachary Bolduc, c'était surtout ce qu'on lui reprochait. Il faisait des points, il est un joueur dominant offensivement, mais au niveau de l'implication, au niveau du jeu physique, il y avait beaucoup, beaucoup de critiques à son année de repêchage. On expliquait peut-être le fait qu'il n'avait pas été repêché aussi haut qu'il aurait pu l'être, justement pour ces raisons-là. Puis là, je ne sais pas si c'est Jim Montgomery, si c'est le fait d'être dans un vestiaire de la Ligue nationale, d'être entouré par des vétérans, mais il y a quelque chose qui s'est mis, qui a cliqué du côté de Zachary Bolduc. Puis il a peut-être compris que dans la Ligue nationale, tu ne peux pas seulement te fier sur ton talent offensif pour récolter les points. Il faut que tu travailles pour les avoir. Puis bien content de voir que ça a finalement cliqué pour lui à Saint-Louis.
Un autre ajout, on a dit bon, on n'a pas bougé à la date des limites des transactions, mais on a bougé hier en quelque sorte parce qu'on a ajouté Jimmy Snuggerud qui lui aussi est un choix de première ronde dans la Ligue nationale de hockey. Vient de terminer son parcours avec l'université, avec les Golden Gophers, c'est ça?
Les Gophers.
Les Gophers de l'Université du Minnesota. Je pense les Golden Knights.
Ben, il y a le Golden Nuggets, qui est un casino à Vegas. Les Golden Knights à Vegas.
Donc, non, je pensais à Clarkson, honnêtement. Je pensais à l'Université Clarkson, okay. Au niveau des Golden Knights. C'était mon côté universitaire. Mais bon, 51 points, 40 matchs cette année avec l'Université
du Minnesota. Nick, t'as raison.
Ouais, c'est les Golden Gophers. Ouais,
les Golden Gophers? OK.
J'ai assez joué à NCAA football pour le savoir, là chez moi. J'avais le cerveau un peu là matin.
Mais à coup de pas, j'y vais souvent, quand j'écris Minnesota, j'écris souvent juste les Gophers, mais je prends pas l'appellation longue.
C'est pas juste une marmotte, c'est une marmotte dorée. C'est pas pareil, OK? Donc, ça vaut un peu plus.
Il a joué son premier match hier. Pour revenir sur Snuggerud.
Ouais, c'est un joueur qui a fait deux années au championnat mondial junior. Donc, ouais. Tu sais, t'ajoutes ça en fin de saison comme ça, c'est peut-être en plus juste le petit surplus de plus qui va te donner un boost, un petit boost.
Tu parles de surplus aussi d'ajout, les Capitals de Washington aussi, ouais. On va aller porte du vestiaire à Ryan Leonard, que Guillaume a vu du côté d'Ottawa, qui est un fatigant, un joueur hargneux, mais très talentueux aussi. Donc, pourrait donner un coup de main aux Caps en série.
Ben, c'est ça, j'allais dire, Guillaume, les Caps, bon, t'ajoutes un joueur comme ça, qui tu le veux aller au championnat mondial junior. C'est un joueur qui est taillé pour les séries. Tu feras peut-être jamais 150 points dans la Ligue nationale, là, ou 100 points, ou peu importe, là, mais il est taillé pour les séries.
Ben, avec lui et Tom Wilson dans la même formation, je pense que les hey, Capitals sont...
Alexis Protas aussi, qui ne donne pas sa place non plus dans ce domaine-là. Là.
Il est vraiment dans ce moule-là, j'ai l'impression. C'est un joueur qui est physique, qui peut frapper, mais... Il est tellement fatigant. C'était épouvantable. Au Mondial Junior, le voir sur la glace, là, c'était les commentaires après le sifflet, les petits coups derrière le jeu, un peu de chialage aux officiels. Là, je pense qu'il est rendu dans la Ligue nationale. Il va falloir qu'il se calme sur cet aspect-là parce que ça reste une simple recrue pour l'instant, mais... Tu sais, on parle de boost, là, des équipes comme ça qui sont dominantes déjà. Puis là, rendu au mois d'avril, on signe un joueur de la NCAA qui a quand même de l'expérience contre des joueurs plus âgés, tout ça. C'est pas automatique qu'ils vont connaître du succès dans la Ligue nationale, mais de rentrer des joueurs comme ça qui ont tous un bon bagage d'expérience, c'est un gros, gros coup de pouce pour ces équipes-là. Les Rangers aussi, l'autre partie du duo, là, Leonard, c'est Gabriel Perreault qui s'est entendu avec les Rangers, va probablement jouer son premier match ce soir. Fabricant de jeu, tout ça, tu sais, les Rangers dans une course aux séries, eux aussi, qui sont des rivaux directs du Canadien. Je pense qu'on ne crachera pas non plus sur l'aide d'un Gabriel Perreault. Puis je pense qu'on le place avec J.T. Miller
Puis Lafrenière.
Lafrenière. Mm-hmm. Donc, on le place déjà dans une bonne position pour produire offensivement. Pour une équipe qui en arrache comme ça, je ne dis pas que Gabriel Perreault va changer complètement le portrait. Là. Je pense que le problème est enraciné un petit peu plus profondément chez les Rangers, mais... j'ai hâte de voir l'impact qu'il peut avoir, surtout entre deux joueurs offensifs comme ça. Je serais pas surpris qu'on le voit produire un peu d'ici la fin de la saison parce que c'est un gars qui a une vision du jeu assez extraordinaire. Puis pour reprendre les mots de Martin Saint-Louis, là, je parlerais d'un
Elite cerveau. Computer.
Elite computer, c'est ça. Il pense le jeu il voit le jeu à très haute vitesse et capable de réagir assez rapidement. Fait que j'ai hâte de voir ça au plus haut niveau.
Mais l'aspect physique risque aussi d'être un ajustement pour Gabriel Perreault. Mm-hmm. Pas l'ADN d'un Ryan Leonard. Là. C'est un joueur complètement différent. Mais un coup de main pour les Rangers du 109 peut-être venir aider.
Qu'est-ce que les trois joueurs qu'on vient de parler ont en commun, messieurs?
Boston. College, tu veux parler de Jacob Fowler?
Non, à vrai dire, j'allais dire programme national de développement des États-Unis.
Oui.
Ça fait des belles pépites, hein? Faudrait peut-être commencer à penser à ça du côté du Canada ou du Québec ou peu importe, mais quand tu regardes le développement de ces joueurs-là, qui sont tous des choix de première ronde, qui ont tous un impact, dont la progression est constante aussi... Il y a peut-être...
Nick, tu parlerais d'une révolution totale parce que si tu sors chaque année les 20 ou 22 meilleurs joueurs, bien, tu viens tellement faire mal à ton circuit canadien dans l'Ouest en Ontario, de la LHJMQ. C'est peut-être un discours à avoir un jour, une discussion, mais c'est une philosophie et une mentalité qui est complètement différente.
Faudra voir aussi combien de joueurs américains vont venir jouer au Canada. Guillaume, ça ressemble à quoi? Là, parce que des joueurs qui veulent jouer, qui se font offrir juste USHL alors qu'ils pensaient aller dans le programme national, peut-être que de venir jouer au Canada, ça va s'ajouter. Je ne sais pas où, comment... C'est peut-être de le bâtir pour les joueurs jusqu'à 16 ans ou je ne sais pas, mais quand je regarde le succès de ces trois gars-là, deux à Boston College, un avec les Golden Gophers du Minnesota. Oui. Et c'est juste une autre... On peut allonger la liste. On parle de Lane Hudson depuis tantôt, c'en est un autre. D'ailleurs, Cole, son frère, Guillaume, est-ce qu'il est meilleur que Lane?
Je pense que c'est un débat qui peut... on peut le tenir, si tu veux, pour l'instant. Mais
pourquoi lui aussi a été repêché à la deuxième ronde? Quand on voit ce que Lane a fait?
Je pense qu'au niveau de son coup de patin, c'est peut-être pas nécessairement... C'est le même style. Tu vas voir les deux danser, mais je pense qu'il y a un peu moins d'explosion du côté de Cole Hudson. Okay. Mais on parle de lui comme d'un joueur plus tough, avec plus de chien que son frère. Mais là, de ce qu'on voit de Lane, tu sais, il démontre pas nécessairement le chien, tu sais, tu le vois pas après le coup de sifflet un peu dans des échauffourées, mais le démonte assez de chien pour... démonte assez de chien pour remonter la rondelle avec 17 secondes à faire puis mettre la table pour un but égalisateur. Fait que, tu sais, je pense
mais il recule pas non plus. C'est pas un joueur
créatif
ou quoi que ce soit. Là.
Ben, je pense que son frère aime plus se salir le nez un peu que lui. Puis peut-être au niveau du coup de patin qui est une petite coche en dessous de Lane, mais ça va être difficile d'égaler ce que le grand frère est en train de faire à sa première saison dans la Ligue nationale. La barre est placée assez haut.
Ouais. Oui, très haut, très haut. Je reste dans la course aux séries éliminatoires. On y revient, devrais-je dire. Oilers d'Edmonton qui lentement, mais sûrement, là, les Kings de Los Angeles qui les ont dépassés, les Oilers qui sont rendus troisième. Beaucoup de blessés chez les Oilers. Connor McDavid n'est pas là. Leon Draisaitl est revenu au jeu. Stuart Skinner sur la liste des blessés. GF... t'as parlé à Olivier Rodrigue qui a vécu des beaux moments.
C'est moi,
c'est pas
ça.
Jeff, c'est Guillaume, excuse-moi. C'est Guillaume.
Ouais.
Mélangé. Guillaume, t'as parlé à Olivier Rodrigue qui a vécu un bon moment. Premier match, journée assez folle pour lui, gardien qui était, bon, la blessure de Skinner qui a été rappelé pour venir ce qui devait être un rôle d'adjoint. Ce qui fait que le reste de sa famille ne s'est pas déplacé. Finalement, a été utilisé et a vécu ce beau moment-là là, dans le cas de Rodrigue.
Ouais, je pense pas que sa famille aurait eu le temps là, de traverser le continent au complet parce que Olivier Rodrigue jouait le mercredi soir avec le club école de Bakersfield en Californie. Après le match, on lui a dit « Tu t'en vas à Los Angeles parce que t'as un vol demain matin pour Seattle. » Donc, a fait la route, s'est envolé de LA à Seattle pour arriver juste à temps pour le départ d'autobus vers l'aréna en après-midi. Puis il se disait, tu sais, je vais profiter de l'expérience, un petit warm-up, je vais regarder ça du bout du banc, vivre un peu l'atmosphère d'un match de la Ligue nationale pour la toute première fois. Puis les choses ont dérapé du côté des Oilers. Je pense que c'était 5-1 après deux périodes. Rentre au vestiaire et l'entraîneur lui a dit, c'est toi qui rentres en troisième période. Fait qu'il dit, tu sais, il dit, j'étais un peu plus nerveux. Il dit, en deuxième période, il était nerveux quand il voyait le Kraken marqué. Il se disait, bon, tu sais, un peu l'incertitude de est-ce qu'on va procéder à un changement? Est-ce que, tu sais, un peu de pas savoir, c'était un peu plus stressant que quand on lui a dit, tu rentres dans le match. Il dit, là, on dirait que le stress s'est envolé, puis j'étais à ma place, puis je voulais bien faire. Stopper 7 des 8 tirs dirigés vers lui en troisième période. Donc, pour lui, après 5 saisons, c'est quand même un long développement dans la Ligue américaine. Il est passé par la ECHL aussi. D'avoir enfin ce premier appel-là, ben, c'est quand même une belle marque de reconnaissance. Puis là, bon, il est encore en attente de son premier départ. Est-ce que ça va se produire? Calvin Pickard est le gardien, l'homme de confiance de Chris Knobloch en ce moment. En l'absence de Stuart Skinner. Est-ce qu'on va lui donner un départ? Ça reste à voir, mais on dirait qu'après toutes ces années, la voie commence à se dégager là, pour Olivier Rodrigue dans la hiérarchie des Oilers. On a eu plusieurs gardiens. Là. On a accordé des longs contrats à des gardiens qui ça a finalement pas fonctionné. Là. Il y a Campbell, je pense. Jack Campbell est dans cette liste-là. On en a quelques-uns comme ça. Rodrigue voyait les Oilers signer, donner des gros contrats à des gardiens établis pendant plusieurs années. Puis là, ben, derrière Skinner et Pickard, ben, il y a Olivier Rodrigue. Puis peut-être que sa chance va venir éventuellement. Peut-être pas cette saison, mais l'an prochain, ça pourrait être un débat assez intéressant du côté d'Edmonton si Rodrigue s'entend là, sur un autre contrat avec les Oilers parce qu'il est il avait signé un deuxième contrat d'un an consécutif avec les Oilers, donc ça vient à terme à la fin de la saison.
Les gars, au moment où on se parle, petite nouvelle de dernière minute avec le CH. Oliver Kapanen débarquera dans l'univers du Canadien, revient à Montréal, donc Kapanen n'ira pas finir la saison avec le Rocket de Laval, mais plutôt avec le CH. Connu une bonne saison du côté de Temra en Suède. 35 points en 36 matchs, 3 autres points en série. 15 buts, 20 passes. On le sait, le Kapanen avait ouvert la saison du côté de Montréal, 2 points en 12 matchs avant de retourner en Europe. C'est peut-être une arrivée qui pourrait libérer ou faire du bien pour le poste de 12e attaquant. Michael Pezzetta qui a joué 5 minutes hier. Donc, Kapanen qui peut jouer au centre, qui peut jouer à l'aile, pourrait peut-être venir remplir un rôle.
Non, exactement.
Ça pourrait peut-être donner un peu de... Moi, je vois un peu de répit aussi à Yoel Armia qui joue magané en ce moment. Son apport est vraiment en baisse dans toutes les catégories à peu près parce que peut pas se servir d'un poignet.
Hein. Je pense non, incapable de décocher des tirs.
Il frappe pas tant, décoche pas de tir. T'sais, oui, c'est un joueur qui défensivement est très, très utile aux Canadiens, surtout en désavantage numérique, mais un Kapanen, je ne sais pas à quel point il a progressé cette saison, mais de ce qu'on voit de loin, ça semble être assez positif. Est-ce que Kapanen pourrait remplir un rôle plus défensif pour donner quelques matchs de répit à Yoel Armia? Je vois ça d'un bon œil. C'est pas un Ryan Leonard, mais c'est de l'aide qui va être... on ne crachera pas là-dessus parce qu'avec Michael Pezzetta comme 12e attaquant en ce moment, on a l'impression que Martin Saint-Louis cherche les moments où l'envoyer et ne pas l'envoyer dans un match.
Puis Michael Pezzetta voudrait amener de l'énergie. Hier, il y a une présence où deux fois, c'est lui qui se fait ramasser. Donc, c'est difficile aussi à la défense de Pezzetta. Là, quand tu joues une fois par mois, c'est pénible d'essayer de gagner en rythme. Mais le retour de Kapanen, il n'y a rien encore de coulé dans le béton, là, mais c'est pas une bonne nouvelle pour Joshua Roy. Ben, peut-être une bonne nouvelle dans le sens où il va pouvoir jouer, mais il risque de changer d'uniforme. S'il joue dans les prochains jours, il y a plus de chances de jouer avec le chandail du Rocket de Laval sur le dos pour Joshua Roy.
Est-ce que tu peux peut-être le garder à Montréal aussi? Je veux que le Rocket, ça va quand même bien, puis tu veux le garder dans
le Rocket est en voyage aussi en ce moment, là, et pas du côté de Laval, mais je vois mal pourquoi tu garderais Roy éternellement sur une passerelle de presse. Surtout que Kapanen va s'en venir. Si tu as déjà Michael Pezzetta comme extra du côté de l'attaque, puis le Canadien n'a pas gardé une tonne de joueurs quand même cette année.
Non.
Je vois plus dans les cartons là, un renvoi du côté du Rocket de Laval pour Joshua Roy.
Les gars, en parlant de renvoi, John Tortorella, je vais surfer là-dessus, qui a été démis de ses fonctions par les Flyers de Philadelphie la semaine dernière. Écoute, on s'en allait inévitablement vers ça. Je pense que les commentaires de Tortorella après, je sais plus c'était contre quelle équipe là, le match, là, mais qui a dit
les Maple Leafs, je crois.
C'était les Maple Leafs, exactement. Ouais, une défaite de 7-2, là, je l'ai pas devant moi, là, mais elle avait dit, moi, j'ai pas de fun à diriger une équipe qui veut jouer comme ça. C'est rare. Là, on est dans la lignée des citations à la Guy Carbonneau. Là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'était quoi Guy Carbonneau? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils joueront pas tant qu'ils ne voudront pas jouer? Quelque chose comme ça, là, Carbonneau.
Ouais, je peux pas jouer.
Ils gagneront pas dans la Ligue nationale tant qu'ils... Je sais pas quoi, là. Je pense qu'ils reprochaient le jeu physique. Ou tant qu'ils travailleront pas.
Yeah, on...
Ils gagneront pas un match dans la Ligue nationale tant qu'ils travailleront pas. Peut pas embarquer sa patinoire. Kirk Muller peut pas embarquer sa patinoire.
quand tu choisis aussi d'y aller d'une déclaration aussi forte, oui, il y avait la frustration d'une défaite, mais c'était à Toronto. Tu sais que la présence médiatique va être importante. Torts n'a pas sorti ces commentaires-là après la défaite de 7-4 à Chicago. Il l'a fait à Toronto, donc ça fait grand bruit, boule de neige, puis bon, congédié. Mais par magie, les Flyers ont gagné leurs trois derniers matchs. Mmh. 6-4 contre le CH, 7-4 contre les Sabres, 2-1 contre les Prédateurs. L'effet du départ de John Tortorella se fait sentir pour l'instant positivement, mais c'est souvent le cas là. Ça peut être du court terme aussi. Là.
C'est ça. Tortorella est un entraîneur qui a tout le temps poussé ses joueurs au maximum, quitte à, des fois, les pousser trop puis pas trouver le juste milieu. Ça fonctionnait peut-être en 2004-2006 avec le Lightning, tout ça, dans ces années-là. Mais, tu sais, de nos jours, tu as un Matvey Michkov qui est supposé d'être le joyau de ton équipe puis tu le laisses de côté assez souvent. Semble-t-il, même, je disais là, hier là, un peu, puis si c'était seulement Tortorella, Michkov aurait été retranché plus souvent que ça. Alors que c'est un joueur qui arrive de Russie, qui doit s'habituer au style de jeu, à la vie nord-américaine, qui va faire des erreurs, puis tu lui donnes pas de corde. À un moment donné, c'était inévitable que ça allait casser. On sait, Tortorella, là, soit que ça marche ou ça casse après 3 ans, 4 ans, là, assez rapidement. C'est ça qu'on vient de voir. Aussi bon entraîneur qu'il est capable d'être, je ne sais pas si on va le revoir un jour dans la Ligue nationale, selon vous.
Peut-être. Je sais pas. Peut-être comme conseiller, mais tu sais, comme entraîneur-chef, je sais pas. C'est un gros pari à prendre. Peut-être pour une équipe qui est rendue à son stade de compétition, qui veut tirer le meilleur pour un an ou deux, trois ans, peut-être. Mais tu sais, il faut aussi parler du fait que Cam York, je pense que ça découle aussi de ça, là. Il y a Cam York qui a eu une altercation avec Tortorella après un match. Lors du match contre le Canadien, a passé le match complet sur le banc, les 60 minutes sur le banc, comme réprimande. Donc, on ne sait pas vraiment ce qui était à l'origine de cette altercation-là, mais visiblement, je ne pense pas que c'est un coach qui avait beaucoup d'admirateurs au niveau, t'sais, peut-être du noyau plus jeune de cette équipe-là. T'sais, l'approche, on en parlait quand on parlait de Jacob Pelletier, d'essayer de casser les jeunes pour leur montrer c'est qui le boss, puis après ça, leur donner des petits nananes s'ils respectent ta façon de faire et tout ça.
À la Jacques Mercier, là, dans l'ancien compte.
Ouais, c'est ça. Peut-être qu'avec cette génération-là, ça percole un peu moins comme façon de faire. Puis peut-être que, tu sais, la pointe de l'iceberg, on l'a peut-être vu avec Cam York, mais ça me dit qu'il y avait peut-être quelques problèmes aussi avec d'autres joueurs de l'organisation.
Mais Daniel Brière était le premier à le reconnaître, à le dire. Avec John Tortorella, tout le monde finit par passer dans le tordeur. Peu importe, joueur vedette, joueur de quatrième trio. Même Daniel Brière disait, moi aussi, je me suis déjà fait rincer par John Tortorella. Mais faut pas oublier aussi que Brière, c'est pas lui qui avait choisi John Tortorella, avait hérité de Torts au moment où lui a pris le rôle de DG du côté des Flyers. Donc, je crois que Brière, maintenant, va avoir l'occasion de placer son équipe encore plus selon son empreinte à lui. Tortorella est parti, mais en même temps, tu sais, Tortorella, l'an dernier, a connu une bonne saison avec les Flyers, là, jusque peut-être au mois de mars où ça commençait à casser, mais les Flyers surpassaient les attentes l'an dernier. Il a peut-être eu la gaffe dans son esprit de se dire, mais on va encore avoir une équipe compétitive, une équipe qui va se battre pour une participation en série. Ça n'a pas fonctionné. Puis je regarde les statistiques là, des trois derniers matchs. Matvey Michkov, c'est 7 points, 4 buts, 3 passes avec Bradshaw et surtout un temps de jeu de 19 minutes. De Travis Konecny aussi, qui est un bon meneur du côté des Flyers, qui a 5 points en 3 matchs. Sean Couturier, 3 points. Ryan Poehling, 4 points. Donc, l'équipe semble revivre un petit peu. Mais Brière ne manquera pas non plus de candidat là, pour trouver le successeur à John Tortorella.
C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que c'est une forme de bénédiction pour Brière qu'enfin cette page-là se tourne et que ça devienne réellement son équipe à lui? Parce qu'on a toujours senti que la présence de Tortorella, c'était comme une ombre autour, tu sais, de toute la direction. Parce qu'il n'avait pas été nommé. C'est une chose quand c'est pas toi qui as nommé l'entraîneur. Ça en est une autre quand cet entraîneur-là, c'est John Tortorella.
Je pense que pour un directeur général recrue comme Daniel Brière, ça a peut-être été. Je lance ça comme ça. Là. On lui a pas parlé et il nous a pas dit ça, mais ça a peut-être été un peu rassurant d'avoir un coach d'expérience comme Tortorella pour les premières années, dans le sens où, écoute, je vais apprendre mon travail à l'étage supérieur, puis le vestiaire, tu gères ça, tu sais comment ça fonctionne.
Il l'a déjà dit, Guillaume, t'as raison, il l'a déjà dit même là.
Mais c'est ça, tu sais, je pense que là, Brière a pris sa job. Il est peut-être rendu à l'autre étape, peut-être rendu à l'étape de dire, écoute, c'est mon équipe, je vais choisir mon homme que je vais placer derrière le banc et tout ça. Fait que, autant peut-être que ça attire un peu de négatif parce que Tortorella est Tortorella. Il y a sûrement eu aussi du positif de tout ça du côté d'Daniel Brière pendant qu'il apprenait les rudiments là, d'être un DG dans la Ligue nationale.
Donc, ouais, les Flyers, bon, ne seront pas des séries éliminatoires. Vous regardez cette équipe-là, selon vous, votre potentiel, c'est quoi le potentiel de cette équipe-là à court terme, à moyen terme? Est-ce que réellement, peu importe si Bradshaw reste là comme entraîneur-chef, c'est lui qui était, tu le dis rapidement, c'est lui qui a été nommé, ou un autre entraîneur va s'amener là, mais est-ce que réellement cette équipe-là est capable de compétitionner dans les deux prochaines années ou il y a du gros travail à faire pour Daniel Brière.
Non, il y a du gros travail pour Daniel Brière. Oui, il y a Matvey Michkov, il y a Jet Luchenko, qui est un choix de premier tour, qui est un bel espoir, mais je trouve que devant le filet, ça reste très, très, très mince, même à la ligne bleue aussi. Donc, c'est une équipe en reconstruction. Le mot reconstruction symbolise aussi patience. Donc, curieux de voir ce sera qui le prochain entraîneur. Là, il y a des noms qui circulent déjà. Les collègues à Philadelphie parlaient de peut-être Rick Tocchet, si jamais Tocchet ne prolonge pas avec les Canucks. Il y a Yann Laperrière, qui est l'entraîneur-chef dans la Ligue américaine avec les Flyers, qui a le logo de cette équipe-là tatoué sur le cœur. Il y a peut-être David Carl du côté des Pioneers de Denver.
C'est pas les Golden Pioneers, c'est vraiment les Pioneers.
De retour au Frozen Four pour la troisième année consécutive.
Exact. Donc, c'en est un qui ne restera pas éternellement du côté de Denver. Puis, a été aussi avec le programme des moins de 20 ans, si je ne me trompe pas.
Deux médailles d'or au championnat junior aussi.
Ouais. Disons que son
ça commence à être une feuille de route.
Commence à être garni.
C'est le Wonder Boy un peu du coaching américain.
Du hockey américain. Oui, mm-hmm. Oui.
Donc, ça va être bon. Je ne sais pas si on va avoir des nouvelles dans les... Sûrement, on va attendre à la fin de la saison là, dans le cas des Flyers.
Je pense qu'il n'y a absolument aucune urgence. Là. Plus que tu attends, plus que tu vas avoir de candidats aussi.
Oui, exactement. GF, Guillaume, merci d'avoir été là avec moi sur le balado aujourd'hui. Ça fut un plaisir en ce mercredi matin. On peut lire tous vos textes.
Oui.
On peut lire tous vos textes, tout ce qu'on a parlé sur aujourd'hui. Est-ce que le Canadien pratiquait ce matin ou.
Entraînement optionnel à 11h30. Et puis, je veux juste revenir sur le mot plaisir partagé. Guillaume l'a dit avec tellement de bonheur que je n'ai pas le choix d'ajouter mon mot aussi. Plaisir partagé.
Et oui. Tu m'as gelé, je ne sais pas quoi rajouter à tout ça. Donc,
conclue, Nick.
Ben, c'est ça, je vais fermer ça là-dessus, chers auditeurs. Merci d'avoir été à l'écoute. Comme ce que j'allais dire avec JF hier de cette belle niaiserie, comme d'habitude. Si vous voulez lire les textes des deux boys, c'est sur le site de lnh.com, toutes les entrevues. On a parlé, faites une recherche. Si le texte n'est plus sur la page principale, c'est pas qu'on l'a effacé. Vous voulez savoir ce qu'Olivier Rodrigue a vécu, faites une recherche Olivier Rodrigue, vous allez trouver. Suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, tout ça. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.